Rebonsoir Muriel.
Oui, bonsoir.
Voilà,
bonsoir.
Tout va bien.
Vous m'entendez bien là.
Cette fois, mais c'est parfait, c'est comme si vous étiez à côté. Tout va bien. Muriel, votre livre est magnifique, non seulement parce qu'il y a des témoignages, parce que ça, vous en aviez fait déjà un livre de témoignages, mais ce n'était pas les frères et sœurs, hein, c'était les enfants dits directement qui ont été directement concernés, mais aussi parce qu'il y a un éclairage donné par un certain nombre de spécialistes. Mais la première chose que je voudrais vous poser comme question, c'est d'où vous est venue l'idée de vous intéresser aux frères et sœurs, après vous être intéressé aux enfants eux-mêmes qui avaient été malades ?
Alors, il y a eu deux événements particuliers, à savoir, donc j'avais écrit ce premier livre, qui est un livre de témoignages d'enfants et d'adolescents qui étaient passés par la case cancer, et j'ai eu reçu une demande d'interview d'une jeune fille qui voulait faire son travail de mémoire sur cette question. Donc, je l'ai reçue, on a beaucoup parlé, elle m'a posé ses questions, et j'étais quand même assez surprise qu'une jeune fille de 17 ans ait choisi ce thème-là pour sa maturité, donc... J'ai demandé pourquoi, et immédiatement elle m'a raconté qu'elle avait un frère qui avait eu un cancer. Et ce qui m'a beaucoup frappée à ce moment-là, c'était le flot de paroles, le flux. C'est-à-dire, je ne pouvais plus l'arrêter, il fallait qu'elle parle. Donc ça a été le premier mini déclencheur. Le deuxième, j'ai reçu le livre d'un ami avec une dédicace qui disait à Muriel, à Jean, mon mari donc, et à leur fille. Alors, il se trouve que j'ai deux filles, une qui est passée par la case cancer il y a une douzaine d'années, et une autre pas. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de façon extrêmement brutale de la manière dont les frères et sœurs disparaissent du paysage à partir du moment où, dans une famille, il y a l'un des enfants qui a soit une maladie très grave comme le cancer ou la mucoviscidose, par exemple, où il y a la peur de la mort qui est inscrite à chaque instant, le risque en tout cas, ou alors d'un handicap très lourd. Et voilà, c'est les deux éléments qui ont fait que je me suis dit il faut aller chercher et donner à entendre ce que ces frères et sœurs, qu'on n'entend jamais, ont à dire et comment ils vivent et traversent une histoire aussi difficile, surtout ce genre d'histoire. Leur particularité, c'est que ça dure des années et des années. C'est pas que, voilà, pendant un temps, pendant 3-4 mois, il faut tous se mobiliser et puis ça va aller. Mais non, là, c'est des années et des années.
Du reste, Laurine dit, pour les soignants, j'étais la sœur d'Alex, une sorte de personnage secondaire, juste une figure perdue au milieu du brouhaha. Les soignants, ils n'ont pas le temps, ou bien les soignants, ils ne sont pas sensibilisés à ce que peuvent vivre les frères et sœurs d'enfants malades.
Alors, il y a deux positions. La première, c'est qu'effectivement, la plupart d'entre eux n'ont pas le temps. Ils sont débordés, ils courent, il y a des urgences. Et effectivement, quand on a notamment un patient qui a un cancer, c'est une attention de chaque instance. Donc, il y a ce côté, ils sont débordés. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que dans certains cas, ils ne se rendent pas compte. Et ça, c'est une des choses qui m'a vraiment frappée dans l'enquête que j'ai menée auprès du corps médical. C'est... Dans ce contexte aussi, certains d'entre eux n'imaginent pas la violence des souffrances qui sont vécues par les frères et les sœurs.
Oui, oui. Et il y a d'autres témoignages, évidemment, il y en a plein. Il y a Florence, qui est infirmière, et qui dit « Je crois que pour être aimée, je dois me taire et ne rien demander. » Et elle le dit par rapport à ce qu'elle a vécu, de la maladie de son frère, mais elle le dit aussi aujourd'hui. Donc ça laisse des fortes traces.
Voilà, alors le témoignage de Florence, il est particulier, extrêmement intéressant, parce que c'est la seule qui a 45 ou 46 ans aujourd'hui, donc qui n'entre pas dans la palette des personnes avec qui j'ai travaillé, qui étaient des jeunes entre 20 et 30 ans. Et dans un premier temps, je m'étais dit, non. Et finalement, au contraire, je me dis, c'est intéressant de voir comment, des années et des années plus tard, puisque dans son cas, c'est 35 ans plus tard, est-ce que cette expérience continue à travailler son présent ? Et ce qui était assez étonnant, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, elle le dit clairement d'ailleurs dans son témoignage, elle pensait qu'elle allait me raconter une histoire toute simple, toute claire, toute lumineuse, parce qu'elle est une femme aujourd'hui, bien installée, avec enfants, famille, un métier qu'elle adore, etc., etc. Et bien pas du tout. Ça a été quelque chose de très violent de revenir un peu sur cette histoire. Et ce qu'elle dit, j'ai compris qu'il fallait que je demande rien si je voulais qu'on m'aime, c'est une des particularités du vécu des frères et des sœurs. C'est-à-dire que les garçons et les filles ne vivent pas du tout les choses de la même manière. Les garçons ont tendance à faire du bruit, à crier, à aller dans l'un des jeunes qui témoigne, David, il est allé jusqu'à faire un casse dans un village.
Oui.
Il le dit clairement, j'avais besoin de ramener l'attention sur moi, j'avais besoin d'exister à nouveau dans l'espace à la fois familial et social. Les filles vont être au contraire, elles vont se suradapter à la situation, elles vont devenir des petites filles modèles, elles vont essayer de ne pas faire de bruit et parfois de développer des maladies somatiques. Par exemple, Marie-Astrid a développé une maladie de peau.
Oui, elle a des plaques et tout ça. Oui,
des plaques blanches. Et elle dit clairement, l'apparition de ces plaques blanches juste après la mort de mon petit frère. Et puis ensuite, après la mort d'un ami qui vient réactiver ce deuil qui n'a pas été fait sur le plan émotionnel, à ce moment-là, dans cette réactivation du deuil, les plaques blanches apparaissent encore dans d'autres endroits.
Dans son témoignage, Florence dit « Il est possible que le cancer ait ruiné notre famille qui au départ n'était pas si mal partie ». Elle en parle par rapport à la maladie, mais aussi par rapport à la sortie de la maladie. Parce que, à la sortie de la maladie, une fois que son frère Emmanuel est tiré d'affaire, les parents ont créé une association pour aider des patients souffrant de leucémie et soutenir des familles. Et on sent qu'ils sont encore presque plus absents après la maladie par rapport à Florence et même par rapport à son frère. Il y a beaucoup de parents, parce que les médecins conseillent ou parce que pour eux c'est important qu'ils créent, on en connaît plein d'associations comme ça. Ça pose quand même un problème, ça, non, pour les enfants qui sont là, surtout quand il y a eu la disparition d'un frère ou d'une sœur, hein, quand il y a eu la mort. Ces associations qui prennent beaucoup, beaucoup de place. Hein. Comment vous voyez ça, vous ?
Bah alors, c'est vrai que ça peut être extrêmement difficile pour les fratries. C'est-à-dire que à la fois, au moment... Alors, quand il y a un deuil, c'est encore plus exacerbé. Mais au moment où on va dire que le patient est un peu sorti d'affaire, l'envie très profonde des frères et des sœurs, c'est que tout redevienne comme avant, ce qui est impossible parce que la maladie et tout ce qui a été traversé par les uns et les autres, ça a transformé et le présent et l'avenir de chaque membre de la famille. Mais le désir profond, c'est ça, c'est de retrouver l'attention des parents, de retrouver une vie la plus normale possible. Et quand des parents s'investissent dans des activités associatives, c'est pas tout à fait ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils continuent l'histoire.
Oui.
Et les frères et sœurs se sentent engloutis un petit peu dans tout ça, étouffés avec cette envie de sortir de ça, de tourner la page, d'aller vers autre chose.
Oui.
Et ce qu'elle disait à propos des familles, de la famille qui a été un peu ruinée, c'est-à-dire que tous ces sentiments extrêmement violents qui sont mis sous le chapeau pendant la phase aiguë de la maladie, souvent ne sont pas pris en compte, souvent sont complètement refoulés, et puis tout ça, ça ressort, et ça ressort parfois des années plus tard. Et par exemple, ce que raconte Michael, qui a donné ses cellules à son frère, donc il est très heureux parce qu'il a, grâce à lui, son frère est vivant, et donc tout va bien au bout d'un certain temps, sauf que quelques années plus tard, un matin, il ne peut plus se lever, et en fait, il bascule dans une profonde dépression, et cette dépression, elle est possible à ce moment-là, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il peut s'autoriser, se donner le droit d'avoir des émotions et de vivre ses émotions.
Alors, comme il nous reste peu de temps, je voudrais reprendre quelques-uns des éléments que l'on retrouve dans beaucoup de témoignages. Par exemple, le fait qu'une part de l'enfance du frère ou de la sœur s'est envolée avec le départ, par exemple, du frère ou de la sœur qui est décédé. Il y a aussi un élément qui ressort très fort dans les témoignages et que vous avez beaucoup souligné, c'est le fait que les frères et sœurs ne sont pas considérés comme des victimes. Et ça, c'est important, le fait qu'ils le soient.
Alors, c'est très très important et c'est peut-être l'un des éléments les plus importants de sortir de l'ombre des frères et des sœurs d'enfants gravement malades. C'est-à-dire que de faire cette analogie entre des enfants qui ont été victimes de violences physique de la part des parents, voire même de maltraitance sexuelle, etc., qui ont une position et qui sont reconnus par le corps social comme étant victimes, et donc qui bénéficient d'une écoute, d'un suivi, etc., ce qui n'est pas le cas des frères et des sœurs. Et ce que dit le psychologue Jacques Lecomte, c'est que si on veut que la fratrie puisse être résiliente, qu'elle puisse renouer avec quelque chose qui est plus en adéquation avec son vrai chemin, son chemin individuel, alors il faut que, d'abord, l'entourage, mais aussi le frère et la sœur lui-même se reconnaissent en tant que victimes, Et à partir de ce moment-là, ça peut permettre de relancer une certaine dynamique et de refaire circuler des énergies qui sont bloquées.
Il y a des choses quand même très très fortes dans les témoignages. Marie Astrid qui dit « Je m'interdis de réussir ma scolarité puisque mon petit frère a perdu la partie ». C'est quand même extrêmement puissant. Il y a aussi toute cette envie de protéger les parents. On prend pas nécessairement la place du frère ou de la sœur qui a disparu, mais on veut protéger ses parents. On veut être là pour ses parents. Et puis à un moment donné, je cite un des témoignages qui dit « Ma colère, je l'ai d'abord enterrée, puis je l'ai projetée sur mes parents. » Puis un autre témoignage qui dit « Les premiers temps, j'ai très peu pleuré, question de survie. Fallait soutenir mon père et ma mère. Le jour où j'ai senti qu'ils pouvaient tenir, c'est moi qui ai craqué. »
Oui, mais c'est un réflexe. Et même quand les jeunes sont tout petits, c'est effectivement de protéger les parents et de d'occuper une place qui n'est pas la leur. Et ça, c'est aussi le rôle à la fois des parents et du corps soignant de remettre chacun à sa place. Et de, par exemple, de ne pas envahir les enfants avec leur angoisse et leur chagrin, de leur dire « oui, je suis triste, mais ça ne va pas durer tout le temps ». Et de ne pas demander aux enfants ou aux jeunes de s'occuper du frère ou de la sœur, c'est pas leur rôle, même si, par exemple, si par moment ils vont donner un coup de main, c'est bien parce que ça les valorise un peu, mais ça doit pas devenir quelque chose de structurel dans la famille. Mais ce besoin de protéger les parents, ça se traduit de plein de façons, y compris par le fait que la fratrie va s'arranger pour ne pas faire de vagues, pour ne pas en rajouter sur ce qui est vécu comme un chagrin ou un souci énorme dans la vie des parents.
C'est ça. Face à ce que traversaient mes parents, dit Edouard, je me sentais terriblement impuissant. La seule chose que je pouvais faire pour les aider, les protéger un peu, c'était de me tenir à carreau. Une dernière chose, Muriel, avant qu'on se quitte. En deux mots, il est très important que les frères et les sœurs assistent à l'enterrement, sinon ils risquent de s'enfermer dans un deuil impossible, dit Edouard. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis entièrement d'accord et c'est très très important parce que ce que soulignent plusieurs des spécialistes que j'ai interviewés dans ce livre, c'est le fait que la réalité, quelle que soit sa violence, quelle que soit sa cruauté, elle est toujours moins cruelle que l'imaginaire, toujours moins violente que l'imaginaire. Et si on empêche les enfants, les jeunes, d'être confrontés au réel, de ce qui se passe, de la vie et de la mort, etc., on les condamne à ne fonctionner qu'avec leur imaginaire. Et l'imaginaire, c'est terrible. Quand on ne sait pas, on invente et on imagine des choses qui sont souvent beaucoup plus violentes et destructrices que la réalité.
Merci.
Donc oui, il faut... Voilà.
Oui, il faut le faire. Merci beaucoup, Muriel Sibilia, d'être venue. Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades, paru aux éditions Slatkin, à découvrir et à lire absolument. Merci infiniment d'être venue ce soir.
Merci à vous.
Bonne nuit. Au revoir. Merci.